conversation sur Anna Karénine avec Jean-Pierre Morel et Olivier Rollin. Si j'ai choisi, hors de toute actualité éditoriale, de consacrer cette émission à Anna Karénine, c'est d'abord parce que, comme l'écrit Alan Bloom dans son grand livre « L'amour et l'amitié », les personnages de Tolstoï sont les truchements littéraires grâce à qui nous prenons connaissance de nous-mêmes. Mais c'est aussi pour une raison plus contemporaine. Révulsés, comme nous le sommes tous, par l'invasion de l'Ukraine et constatant que cette guerre dévastatrice n'est pas née d'un cerveau malade, mais s'inscrit dans la tradition immémoriale d'un pays qui, par-delà les convulsions et les ruptures, s'est toujours conçu non comme une nation, mais comme un empire, certains bibliothécaires, certains intellectuels voudraient mettre la littérature russe à l'index. Cette proscription serait une amputation. Ce châtiment, nous nous l'infligerions à nous-mêmes, sans Gogol, sans Pouchkine, sans Dostoïevski, sans Tolstoï, sans Tourguenieff, Tchekhov ou Vassili Grossman, la culture européenne perdrait une partie de son âme. Nous en apporterons la preuve aujourd'hui avec deux écrivains, Jean-Pierre Morel et Olivier Rollin, qui ont accepté, et je les en remercie, de suspendre leurs travaux respectifs pour se plonger à nouveau dans Anna Karénine. La première question que je vous poserai, messieurs, est naïve et s'adresse plus peut-être à votre sensibilité qu'à votre intelligence. Diriez-vous, avec Nabokov, qu'Anna Karénine est l'une des héroïnes de romans les plus attachantes de tous les temps, Jean-Pierre Morel?
Je crois, oui. Certes, quand on lit le roman d'une traite, il arrive des moments, beaucoup de moments, il me semble, où Anna Karénine nous irrite. Comme dirait Paul Valéry, c'est peut-être pas seulement une emmerdeuse, mais une emmerderesse. Mais il faut mettre au crédit d'Anna Karénine deux choses. D'abord, qu'elle est une sorte de proie de la fatalité. Elle est un personnage tragique au sens grec du terme. Et deuxièmement, elle est, je crois, à chacun des mouvements de son âme, elle est totalement sincère. Ce qu'on ne peut sans doute pas dire de son amant Vronsky. Elle est tout à fait sincère et c'est la raison pour laquelle elle est si souvent dans le roman totalement déchirée, que ce soit dans ses rapports avec Karénine, que ce soit avec Vronsky ou, et on oublie souvent de mentionner les enfants d'Anna, ou avec Serge, et puis la petite fille qu'elle a avec Vronsky. Donc elle est extrêmement attachante parce que bouleversante.
Mais c'est ça, elle est bouleversante. Donc, en effet, Anna Karénine, c'est un des deux grands romans d'adultère du XIXe siècle. Il y a Madame Bovary et Anna Karénine. Et elle tombe amoureuse, vraiment tout à fait à son corps défendant, et en cela très différente d'Emma Bovary, qui a été nourrie d'une littérature à l'eau de rose, qui veut connaître des grandes histoires d'amour. Elle respecte son mari, elle vit comme elle vit, mais elle est un coup de foudre pour Vronsky, avec qui en effet elle a un enfant. Alors nous reviendrons sur son côté irritant tout à l'heure, c'est vrai, vous avez raison d'entrer le jeu, d'insister sur cette composante, Jean-Pierre Morel, mais je m'adresse maintenant à Olivier Rollin et je lui pose la même question. J'ajoute que Alan Bloom, dans son livre, dit lui-même que Anna Karénine est une création merveilleuse, donc il va dans le sens de Nabokov, pardon.
Oui, quand j'ai lu Anna Karénine pour la première fois, je sais pas, j'étais beaucoup plus jeune évidemment que maintenant, et j'avais surtout, enfin dans ma mémoire, il y avait surtout voilà la beauté d'Anna Karénine et une chose en particulier qui m'avait frappé, c'était qui est dite dès le début, enfin quand elle débarque du train là, à Moscou, qui était ses yeux gris ombragés par que des cils très grands font paraître plus sombres, et voilà, j'avais gardé cette image, et donc c'était une vision un peu, disons, un peu superficielle d'Anna Karenine. Bon, l'ayant relu, puisque j'ai relu le livre, évidemment, pour vous parler aujourd'hui, l'ayant lu, ceci m'a frappé encore, mais c'est surtout le... Alors, je suis d'accord avec vous, Jean-Pierre Morel, là, c'est surtout le... Enfin, elle est souvent absolument irritante. Elle est d'une injustice quelquefois presque révoltante. Enfin, y compris avec ce, avec Karénine, avec le mari. Bon, quand il se montre extrêmement généreux et elle dit je le hais à cause de sa générosité. Bon, mais elle est ainsi, mais elle est en même temps, en effet, une image de l'amour dévorant, de la passion dévorante et qui ne transige en rien, quoi. Et donc, je dirais qu'elle est une illustration, une des meilleures illustrations que je connaisse dans l'histoire de la littérature, de cette chose que votre ami Kundera souligne dans l'art du roman. Les grands personnages de roman, c'est des personnages ambigus. Bon, et c'est un personnage tout à fait ambigu. Et on sent bien que, à certains moments, Tolstoï l'aime profondément, en est séduit. Enfin, je dirais, et par exemple, Tolstoï, puisque plus ou moins, on dit que Tolstoï c'est Lévin. Bon, et quand Lévin va la voir vers la fin du roman et qu'il en vient complètement retourné, quoi, et on sent que Tolstoï à nouveau est retourné. Donc Tolstoï hésite constamment entre c'est une femme perdue, c'est une pécheresse, etc. Et puis c'est la personnification de l'amour. Donc cette ambiguïté-là, en fait, je trouve en effet un des personnages romanesques les plus attachants de...
Oui, c'est vrai. Alors, c'est une femme perdue. Cela étant, il y a une épigraphe biblique au livre que Nabokov traduit ainsi. « C'est moi qui ferai justice, moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. » Donc, ce livre peut être lu aussi comme une attaque contre la société qui décide elle-même et elle seule de proscrire Anna Karénine. Elle est quasiment revêtue de la lettre écarlate. Elle ne peut aller nulle part. Et par cette épigraphe, Tolstoï dit « c'est pas à la société de le faire ». Il ajoute, enfin, ce que Nabokov ajoute est aussi très intéressant. Donc, quelles sont les implications de cette épigraphe? D'abord que la société n'a pas le droit de juger Anna, et ensuite qu'Anna n'a pas le droit de punir Vronsky en se suicidant à titre de vengeance. Parce que tout le monde n'a pas encore lu Anna Karénine, en effet, elle finit par se suicider, non pas en raison des obstacles que la société met à son amour, mais en raison de l'éloignement de Vronsky. C'est-à-dire, plus elle l'aime, plus il se détache, plus il est étouffé par cet amour, et c'est ce qui la pousse à se jeter sous un train. Mais justement, revenons sur ce côté irritable. Pourquoi, nous qui sommes éblouis par Anna Karénine, sommes-nous aussi si souvent exaspérés par son comportement, Jean-Pierre Morel?
Nous sommes exaspérés par son comportement, d'abord, mais c'est je commence par les détails, parce que Tolstoï décrit admirablement comment elle met de l'huile sur le feu, comment elle déclenche des scènes à cause de sa jalousie, et comment on a l'impression parfois qu'elle est en train de pourrir la vie de Vronsky et qu'elle se tire une balle dans le pied. Mais c'est, je trouve pas que ce soit l'aspect le plus important. Ce qui pourrait faire qu'on n'aime pas Anna Karénine, c'est une forme de cruauté. Je crois à la cruauté de la passion. J'en donnerai deux exemples. La cruauté qui s'installe vis-à-vis du rapport d'Anna Karénine avec ses enfants, avec Serge, et puis avec, on ne sait même plus comment s'appelle, Annie, la petite gamine qu'elle ne peut pas aimer, alors que c'est Vronsky, le père.
Oui, c'est le fruit de la passion.
C'est le fruit de la passion. Et puis, elle laisse tomber son fils, Serge, qu'elle a aimé. Mais on comprend bien pourquoi. Parce que, ayant cessé d'aimer très tôt, je pense, Karénine, elle reporte toutes ses possibilités d'amour sur son fils, Serge. Elle l'investit d'un amour infini. Et lorsque cet amour se présente sous la forme de ses relations avec Vronsky, Serge est oublié. Et d'ailleurs, il y a une phrase terrible au début du roman. Lorsque Anna Karénine revoit son fils après un certain temps éloigné de sa maison, elle a un mouvement de recul parce que son fils est moins beau que ce qu'elle avait imaginé, que l'image qu'elle en avait gardée dans son imagination pendant tout le séjour ailleurs. Ça, c'est terrible. Et donc, tout d'un coup, elle dit « il faut que je me réhabitue au Serge réel ». Mais il y a une autre raison pour laquelle on pourrait reculer face à la cruauté d'Anna Karénine, c'est la cruauté vis-à-vis de Karénine. Alors je voudrais dire ici que si Anna Karénine est bouleversante, je trouve que le personnage de Karénine est aussi complètement bouleversant, complètement. Parce que c'est un homme qui souffre terriblement. Et Anna Karénine est impitoyable lorsque, par exemple, et ça commence comme ça, lorsqu'elle critique ses défauts physiques. Quand elle parle de Karénine, en parlant de ses oreilles qui semblent supporter à elles seules le chapeau qu'il porte, quand elle parle de ses mains osseuses, de ses jambes maigres et raides, de sa voix grêle, elle arrive à faire passer chez le lecteur un frisson de dégoût, celui-là même qu'elle éprouve pour Karénine. Et c'est impitoyable. Elle est cruelle, d'une certaine manière, Anna. La cruauté de la passion, mais...
La cruauté de la passion est une cruauté qui la prend elle-même au dépourvu. Parce que, en effet, elle voit soudain les oreilles de Karénine. C'est elle qui... il vient la chercher à la gare, je crois.
Oui.
Hein,
à Saint-Pétersbourg, oui, c'est ça.
Oui, c'est ça. Elle les avait jamais vues comme elle les voit. Et donc, tout d'un coup, à peine descendue de wagon, le premier visage qu'elle aperçut fut celui de son mari. Bon Dieu, pourquoi ses oreilles sont-elles devenues si longues? Sont-elles devenues si longues? Se dit-elle à la vue de cet être de belle mais froide prestance dont le chapeau rond semblait reposer sur les cartilages saillants des oreilles. Et là, je pense encore à Kundera. En effet, Olivier Rollin, parce que Kundera définit le roman comme l'art de la prose. La prose ne signifie pas seulement un langage non versifié, il signifie aussi le caractère concret, quotidien, corporel de la vie. Et c'est la prose qui définit le sens profond de l'art du roman. Ben oui. Et là, elle est amoureuse et elle voit les défauts physiques de son mari, la prose de son mari. Et ça, seul le roman peut nous le dire, tout d'un coup, en effet. Et puis, il fait craquer ses phalanges.
Enfin, oui.
Elle a une espèce d'allergie, en effet, qu'elle ne peut pas vaincre, même au moment où Karénine se montre généreux, Olivier.
Oui, je me fais penser à un autre livre sur Tolstoï, qui est celui de Dominique Fernandez, oui. Et qui dit assez justement, très justement, même je trouve, qu'un grand, un écrivain médiocre aurait essayé de nous décrire le coup de foudre d'Anna pour Vronsky, enfin le coup de foudre mutuel, tandis que lui nous le fait comprendre par ses effets immédiats. Et par exemple, en effet, tout d'un coup que le visage de son mari change complètement à ses yeux, qu'il devienne, et s'est jamais aperçu qu'il avait ses longues oreilles, et tout d'un coup, hop, elle voit qu'il est difforme d'une certaine façon, eh bien c'est une manière extraordinairement, intelligente, extraordinairement sensible de nous montrer les effets de cette espèce de révolution de la perception, quoi, qu'apporte le coup de foudre amoureux. Mmh. Et de toute façon, Tolstoï, enfin, et dans ce livre en particulier, une des formes de son génie, c'est l'extraordinaire acuité de son regard et l'extraordinaire pertinence des détails. C'est, voilà. c'est absolument, c'est merveilleux. Enfin, je veux dire, dans le train, il y a un type qui passe, etc. Il lui manque un bouton, mais à tout, même dans les moments complètement, disons, de plus grande, où sa réflexion prend une très grande ampleur métaphysique, prend tout à fait à la fin quand Lévin comprend tout d'un coup qu'est-ce que c'est que la vie juste, quoi, grosso modo, et il est là, il est couché dans un champ, et pendant qu'il réfléchit à ce que c'est que Dieu, ce que c'est que le bien, etc., et il regarde un petit insecte qui monte le long d'une tige d'herbe, et tout, une grande partie du génie de Tolstoï, c'est en effet cet extraordinaire et voilà, attention aux détails. Et pardon, je vais encore citer quelqu'un, mais qu'on a déjà cité, qui est Nabokov, et qui dit et il a mille fois raison, que l'art du roman, il ne réside pas dans les idées, il réside dans les images. Bon. Et voilà, Tolstoï, c'est vraiment le maître des images.
Oui, alors Lévin, c'est l'autre personnage central d'Anna Karénine. Il a une histoire d'amour avec Kitty, qui commence mal parce que celle-ci, toute jeune, s'éprend de Vronsky. Et sa mère voudrait le marier à Vronsky parce qu'il est riche, c'est un comte, etc. Vronsky, à ce moment-là, tombe, il a un véritable coup de foudre amoureux d'Anna Karénine, et cet amour le conduit quand même lui-même à sacrifier sa carrière. Là, nous sommes très loin encore de Madame Bovary. Madame Bovary tombe sur des crétins, enfin, et sur des gens qui se servent d'elle, Rodolphe ou Léon, qui ne sont pas à la hauteur de l'amour chevaleresque qu'il devrait lui porter. C'est pas le cas de Vronsky. Il a ses défauts peut-être, mais il démissionne de l'armée, il est absolument accablé quand elle meurt. Mais Anna Karénine, et donc il y a d'un côté Anna Karénine, de l'autre côté Lévine, et Lévine, c'est le personnage qui représente un peu les idées de Tolstoï, ses idées sur l'amour, c'est-à-dire l'amour conjugal, l'amour conjugal qui n'a plus rien à voir avec l'amour passion, puisque l'amour conjugal, on fait des enfants, et faire des enfants à l'époque pour une femme, c'est sacrifier sa beauté.
Oui, et pardon, ça me fait penser à la fin de Guerre et Paix,
Natacha.
Et Tolstoï insiste, elle n'est plus belle, alors qu'elle était un personnage absolument merveilleux. Ah oui. Elle n'est plus belle, elle est devenue une mère russe avec plein d'enfants, etc., à la campagne.
Exactement.
Mais elle a sacrifié à ça sa beauté, ça importe pour lui.
Et c'est très important
pour Tolstoï. Et Tolstoï, vers la fin, trouve qu'Anna a grossi.
Oui, elle a pris de l'embonpoint, il commence déjà à l'aimer moins, il essaye quand même de ranimer son amour. Oui, ça, c'est très important pour Tolstoï, mais c'est une manière de dire, le bonheur conjugal n'a rien à voir avec l'amour-passion. Donc, mais c'est une des questions essentielles que je voudrais poser. Tolstoï est un artiste et un moraliste. Tolstoï est le théâtre d'une lutte incessante en lui entre la littérature et le sermon, entre le roman et la prédication. C'est très visible dans Guerre et Paix. Est-ce que c'est perceptible aussi dans Anna Karénine? Ou est-ce que l'artiste réussit à l'emporter quand même, au bout du compte, l'artiste ou le romancier, sur le prédicateur? Que penser de ce conflit interne à Tolstoï, Jean-Pierre Morel?
Le génie littéraire de Tolstoï réussit à triompher de ce que vous présentez. Il réussit à triompher, mais on peut dire qu'il retombe dans cette ornière avec les dernières pages où Lévine réfléchit, finit par trouver un sens à la vie dans l'existence de Dieu. Mais il me semble que le conflit de Tolstoï a toujours été, dans une certaine mesure, la balance entre dans quelle mesure faut-il vivre et dans quelle mesure interroger le sens de la vie. Et cette balance qui est l'axe, je crois, de l'œuvre de Tchekhov, et Tchekhov atteint à l'un des plus beaux équilibres, sans doute, dans la littérature, entre vivre et réfléchir sur le sens de la vie. Et à cet égard, si je peux lire un petit texte qui est tiré des Confessions de Tolstoï, je trouve que c'est un texte très éclairant sur ce sujet
Pourquoi
même.
Vous avez parlé de Tchekhov pour dire qu'il a réussi là où Tolstoï a échoué, c'est ça?
D'une certaine manière, Tolstoï a échoué, en tout cas, dans sa vie, certainement, avec la crise finale. Mais son génie est tel que finalement, il arrive à redresser la barre, même avec les leçons de morale des dernières pages d'Anna Karénine.
Oui, parce que la grande surprise d'Anna Karénine, c'est que ce livre ne se termine pas sur le suicide d'Anna. Il y a une huitième partie qui est entièrement consacrée à Lévine. Et on se dit, parce que c'est pas une apothéose, mais enfin c'est forcément le point final. Elle meurt, elle se suicide, etc. Ben non. Et là, effectivement, la morale est très présente.
Alors, Tolstoï, le moraliste, est présent dans le fait de décider qu'il va terminer Anna Karénine sur le personnage de Lévine et sur son. Ce qui est étrange, c'est qu'on pourrait considérer en miroir le monologue délirant d'Anna Karénine au moment où elle va se jeter sous les roues de la locomotive, et tout de suite après, Tolstoï le fait assez souvent dans Anna Karénine. Et comme en miroir, une autre forme de monologue et de délire qui est celui celui de Lévin quand il commence à dévorer toutes les tous les philosophes qu'on lui a conseillés. Et puis finalement, il s'oriente à mi-chemin entre la vie et la réflexion. Il trouve, on le sent, une sorte d'équilibre que Tolstoï ne trouvera pas. Mais je vais lire, si vous permettez, ce petit passage qui est tiré des Confessions. Je crois d'abord que Tolstoï a été hanté très jeune par l'idée d'une progression, d'un perfectionnement. Il est possible à l'homme, à tout homme, de se perfectionner, et c'est le but de la vie. Et voici ce qu'il dit, encore jeune. « La vie en Europe et mes rapports avec les hommes avancés et les savants européens m'affermirent de plus en plus dans cette croyance au perfectionnement en général, qui avait été la mienne et que je retrouvais chez eux aussi. » Cette croyance prit en moi la forme habituelle, celle qu'elle revêt chez la majorité des gens instruits de notre temps. Elle s'exprimait par le mot « progrès ». Il me semblait alors que ce mot signifiait quelque chose. Je ne comprenais pas encore que, tourmenté comme tout homme qui pense par cette question « comment dois-je vivre pour vivre le mieux possible ?» et y répondant « vivre en accord avec le progrès ?» Je répondais exactement comme un homme dont la barque est emportée par les vagues et qui, à cette question essentielle et unique pour lui, où faut-il se diriger, répondrait indirectement « les vagues me portent là-bas ». Et puis l'autre texte qui est très intéressant, c'est à l'époque de Guerre et Paix d'Anna Karénine, « à mon retour, je me mariais ». C'est Tolstoï qui parle. Les conditions nouvelles d'une vie de famille heureuse me détournèrent complètement de toute recherche du sens général de la vie. Toute ma vie en ce temps-là se concentra sur ma famille, ma femme, mes enfants, et par conséquent, sur les moyens d'augmenter mes ressources. Mon aspiration au perfectionnement en général, au progrès, cédait nettement la place à mon désir d'avoir pour moi et ma famille une vie très confortable. Ainsi passèrent 15 ans encore. Bien que je considérasse la littérature comme une bagatelle, pendant ces 15 années, je continuais cependant à écrire. Je connaissais la séduction qu'exerce la littérature, l'appât du gain énorme et les applaudissements qui récompensent un mince travail. Et je vis dans la littérature le moyen d'améliorer ma situation matérielle, mais d'étouffer dans mon âme toutes les questions sur le sens de ma propre vie et de la vie en général. Ce qui veut dire que la famille, et d'ailleurs la famille c'est le sujet central d'Anna Karénine, la famille est ce lieu d'un égoïsme sacré où l'on ne se pose plus la question du sens de la vie. Et pourquoi ? Parce que la famille est elle-même le sens de la vie. Elle est la vie. Et c'est à partir du moment où Tolstoï commence à se poser des questions sur le sens de la vie qu'il va laisser tomber sa famille, qu'il va avancer vers une sorte de progression qui va le rendre fou d'une certaine manière.
Oui, bien sûr, mais la famille, c'est... C'est-à-dire que Lévin, lui, trouve une sorte d'équilibre. Il découvre à la fois les joies de la famille et le sens de la vie. Et c'est un peu, comment dire, c'est du moralisme. Mais c'est quand même assez beau parce que Dieu lui vient à l'idée, pour prendre une expression lévinaise, autrement que sous la forme « je crois en Dieu ». Il dit « la raison ne peut prescrire d'aimer son prochain, ce précepte n'est pas raisonnable ». Et découvre donc, au-delà de la raison, un précepte qui ne peut venir que de Dieu. Il se réconcilie avec la religion, mais le dernier mot du livre, c'est le mot « bien ». Donc, même cette réflexion un peu pesante a quelque chose de profond, Olivier Rollin.
Oui, elle a quelque chose de profond, mais je voudrais revenir à votre question initiale, c'est-à-dire est-ce que le moraliste l'emporte, ou en tout cas gâche un peu l'art du romancier, et je dirais que non, bien sûr, ça reste un roman et un des plus grands romans qui soit. Mais tout de même, c'est vrai qu'il y a une lutte permanente et que c'est parfois assez pesant, et que Lévin, c'est-à-dire plus ou moins Tolstoï, assez fortement Tolstoï, est tout de même un personnage qui est souvent pénible, quoi. Enfin, je veux dire, il est tout le temps courroucé, et il est affreusement jaloux. Il y a un poids, en effet, du moralisme, d'une conception nationale de ce qui est le bien, quoi.
Oui.
Et ce qui est très clair, c'est qu'il y a, je dirais, il y a quatre niveaux d'excellence morale. Alors, ce qu'il y a de pire, là où il y a le moins de morale, c'est l'Europe, et c'est très précisément la France. tout ce qui est français, à chaque fois qu'on parle français, à chaque fois qu'on parle d'un objet français.
Mais le livre, parle français à plusieurs reprises.
Oui, il parle beaucoup. Mais,
et Guerre et Paix encore
le
plus.
Le français, c'est tout. Oui, bien sûr. Mais le français, c'est toujours quand même, au tout début, il y a une femme qui sert dans un hôtel, etc. Elle est française et c'est comme une flaque de boue. Enfin bon, voilà. La dégradation morale, c'est la France. Ensuite, Saint-Pétersbourg, c'est un niveau un peu moindre de dégradation. Ensuite, Moscou, ça commence à devenir un peu mieux. Et finalement, il y a la campagne et donc les traditions russes, etc., la paysannerie et tout.
C'est
et là, c'est bien. Bon. Et là, il y a quand même quelque chose d'un peu déplaisant qui faisait dire à tort, à mon avis, à Tourguenieff, que ça sentait la slavophilie. Cette espèce de gradation morale, là, que je viens de dire, pourrait faire penser à cela, en effet. À vrai dire, on ne peut pas le dire complètement, puisqu'à la fin, dans les derniers chapitres, il y a des déclarations extrêmement ironiques contre les slavophiles, contre les gens, justement, contre ceux qui vont se battre du côté des Serbes, etc. Et tout ça, on s'en fout complètement, d'après lui. Enfin bon, donc on ne peut pas l'accuser de slavophilie, mais il y a tout de même cette espèce de morale paysanne qui est assez lourde, quoi.
Alors, mais c'est très intéressant. Je cite une dernière fois Nabokov. Quand nous avons des pages et des pages qui sont nettement en marge du récit, nous indiquons ce que nous devrions penser, ce que Tolstoï pense de la guerre, du mariage ou de l'agriculture, le charme est rompu et les délicieuses silhouettes familières qui étaient jusque-là assises autour de nous et avaient fini par faire partie de notre vie sont désormais coupées de nous. La porte est fermée et ne sera réouverte que lorsque notre auteur solennel aura complètement, oui complètement, achevé sa tirade sentencieuse dans laquelle il explique et réexplique ses idées sur le mariage, Napoléon, l'agriculture et ses vues morales et religieuses. Oui, mais quand même, le romancier est toujours là. Parce que vous dites très bien, Paris, c'est...
La futilité et la débauche.
La futilité, c'est la débauche, c'est la déchéance morale, etc. Et à cet égard, Tolstoï se montre un disciple de Jean-Jacques Rousseau. Hein. Rousseau est vraiment son maître à penser. Mais l'un des personnages de Anna Karénine, c'est Oblonsky. Stepan Arkadievitch Oblonsky. Il a des conversations. Or, il est incroyablement sympathique, cet Oblonsky. Et c'est un hédoniste. C'est un hédoniste qui trompe sa femme, Dolly, parce que, à 33 ans, elle a eu plusieurs grossesses. Donc, elle n'est plus belle. Et lui, bien que marié, il a une morale de célibataire. Et d'un autre côté, et il a cette phrase terrible, n'est-ce pas le but de la civilisation que de tout convertir en jouissance? Et à ce moment-là, Lévin lui répond, si c'est le but, j'aimerais mieux être un barbare. On est en plein Jean-Jacques Rousseau. D'accord. Donc c'est le personnage le plus opposé à ce que pense Tolstoï, avec son épicurisme, et en même temps, tout au long du roman, il est incroyablement sympathique.
Oui.
Et ça, c'est le miracle romanesque de Tolstoï.
Voilà, et ça, cela est dû, à mon avis, à une chose dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, qui est l'humour de Tolstoï. Bon, parce que Oblonsky est un personnage sympathique, mais est un personnage qui fait rire aussi. Et il y a des moments qui sont absolument formidables. Quand il va voir Karénine pour essayer de le convaincre d'accorder le divorce à Anna, il le fait tout à fait sincèrement, parce que c'est un bon cœur, comme on dit. Bon, mais en même temps, il pense à la place qu'il voudrait, un poste, une sinécure qui serait payée 8000 roubles, etc., qu'il voudrait avoir pour pouvoir payer ses dettes. Et donc, constamment, ses pensées vont de la défense, enfin, d'Anna, donc d'un but généreux, moral, etc.
Oui, c'est ça.
Bon, et en même temps, mais tout ça est mélangé avec ses pensées arrivistes et ses pensées absolument minables. Et ce sont des pages, qui sont vraiment très drôles, quoi, qui sont.
C'est toujours la prose.
Une ironie formidable.
La prose. Oui, vous avez tout à fait raison. Mais alors là, maintenant, je vais me faire l'écho d'une objection. Et j'aimerais avoir à Anna Karénine. Et j'aimerais avoir votre opinion à tous deux, et d'abord Jean-Pierre Morel. C'est Alan Bloom qui la répercute. Il a entendu un de ses collègues à l'université soutenir que si Anna avait vécu aujourd'hui dans l'État du Wisconsin, un juge libéral lui aurait accordé le divorce avec la garde des enfants. Elle aurait pu ainsi à la fois avoir sa liaison et garder son fils, sans tension ni sentiment de culpabilité. Pardon. Le roman ne ferait alors que refléter des lois et des habitudes sociales désuètes et injustes. Autrement dit, Il y a des gens qui peuvent aborder ce livre et dire, ben oui, ben d'accord, mais ça c'est le monde d'avant, c'est complètement périmé, nous sommes beaucoup plus ouverts aujourd'hui, donc c'est peut-être un témoignage, mais ça ne peut rien nous apprendre sur le phénomène humain, parce que nous nous sommes délivrés de toutes les tares du monde ancien. Physiquement, la grossesse n'est plus un problème, alors que là, à chaque fois, ça met, les femmes sont entre la vie et la mort, notamment Anna Karénine, et c'est le moment d'ailleurs où Karénine bascule dans la générosité, et il voit qu'elle peut mourir, donc il lui donne son pardon, il est ivre de ce sentiment justement de bonté qu'il habite, enfin, etc. Mais tout ça c'est fini avec la péridurale, pour le reste le divorce, et puis on pourrait dire aujourd'hui avec le wokisme que de toute façon ce sont des stéréotypes sexistes qui s'imposent à l'époque, qui mettent les femmes au rebut quand elles trompent leur mari, mais tout ça a complètement disparu. Alors on répond, mais pourquoi lire Tolstoï aujourd'hui sinon pour mesurer notre supériorité sur le monde dont il parle? Qu'est-ce que vous répondez à cette objection, Jean-Pierre Morel?
Que c'est une vision très, par le petit bout de la lorgnette, par les institutions. Une chose sont les institutions, la vie sociale à Moscou, à Saint-Pétersbourg, et une autre, ce sont les sentiments qui, eux, sont permanents dans l'histoire humaine. Ce sont toujours les mêmes. Ils sont sans doute modelés par les institutions, par la société, par les mondanités, par les règles. Mais, dans le fond, l'important... Et c'est ça l'art de Tolstoï, l'art de son génie de romancier, c'est qu'il reste tellement proche des sentiments, tellement proche de la manière dont ils naissent, dont ils se développent, qu'on oublie, je suis certain que le lecteur d'aujourd'hui oublie très vite, totalement, qu'il s'agit d'une société du 19e avec ses règles, avec ses interdits, et qu'il est tout proche de la vie, parce que, en dernier ressort, si je devais dire quelle est la caractéristique la plus importante, la clé du génie de Tolstoï, c'est la vie. Personne, je crois, aucun romancier n'a été aussi proche de la vie même. Et la manière dont il entrelace le corps, l'âme, le milieu, les lieux, il y a une sorte d'intrication, il y a des effets de rétroaction qui sont extraordinaires. Vous parliez tout à l'heure de d'Oblonsky. Vous vous souvenez qu'au début du roman, lorsque Oblonsky a fait l'aveu ou que sa femme de lui a découvert qu'il l'avait trompé, avec une institutrice française.
C'est vrai. Avec, vous avez raison.
Voilà. Et il y a un peu d'ironie à ce moment-là quand il mentionne la nationalité de l'institutrice, de la préceptrice de ses enfants. Oblonsky se parfume, et le simple fait de se parfumer, de se laver, de tailler sa moustache et de rentrer dans le cercle familial où... c'est une très jolie notation de Tolstoï, où il refraine sa joie de la réconciliation parce qu'il ne voudrait pas donner le sentiment qu'il a oublié sa faute ou qu'il la tient pour anecdotique. Tout ça fait partie de la richesse de la vie. La présence du corps, la présence des sentiments fait reculer très loin le problème des institutions, des normes sociales. Donc on l'oublie très vite parce qu'on est pris par la vie.
Oui,
je trouve. Même question.
Oui, cette objection de Blum.
Oui. Faite à Blum, parce que lui, c'est son collègue.
Oui. me paraît étrange, parce que le roman, d'une manière générale, parle, enfin, pas systématiquement, mais enfin, parle du passé. Ou en tout cas, bien souvent, le passé, c'est la matière du roman, et on se fiche qu'il ne soit plus là. La société décrite par Proust n'est plus là, grosso modo. Elle n'est déjà plus là. D'ailleurs, elle est en train d'agoniser à la fin, dans le temps retrouvé. Mais en tout cas, maintenant, au début du XXIe siècle, je doute qu'elle existe beaucoup, et ça ne nous empêche pas de lire avec passion La recherche du temps perdu. Bon.
Oui, mais ce qu'on dirait, c'est que nous nous sommes libérés des préjugés et des stéréotypes qui fondent l'action même d'Anna Karenine.
Nous voilà. nous ne nous sommes pas libérés de la jalousie, par exemple. Or, je ne connais, il m'est arrivé malheureusement dans ma vie d'être jaloux. Il m'est même arrivé d'essayer d'écrire là-dessus. Je ne connais pas de description plus extraordinaire, plus impitoyable, plus insoutenable. Enfin, quand on lit toute cette marche à la mort là, d'Anna, tous ces soupçons qu'elle ne cesse de reproduire, cette façon qu'elle a d'analyser faussement un regard, un demi-sourire, etc. Enfin, tout ça est prodigieusement vrai. Voilà, au 19e siècle comme au 20 ou 21e siècle. Et il y a tout lieu de penser que ça continuera.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je pense en effet que c'est la meilleure objection qu'on puisse faire à cette objection qui se répand aujourd'hui. On a quand même une façon condescendante de regarder le passé et donc les œuvres du passé. Ce passé n'est pas admirable, il est plein de conventions, etc. Nous en sommes affranchis et donc nous n'avons rien à apprendre de lui. Or, effectivement, je crois qu'il y a à apprendre d'Anna Karénine et notamment dans cette magnifique réflexion implicite sur l'amour qui se dévore lui-même. Elle est jalouse tout de suite. Pourquoi ? Parce que rien n'existe pour elle que l'amour qu'elle a pour Vronsky. Elle lui a tout sacrifié, vous l'avez dit, Jean-Pierre Morel. Elle lui a sacrifié ses enfants. Donc, elle attend le même sacrifice. Or, lui, il a une vie extérieure. Et il étouffe. Dès le début, maintenant qu'elle l'aimait comme seul peut aimer une femme qui a tout sacrifié à sa passion, il se sentait plus loin du bonheur qu'à l'époque où il avait quitté Moscou pour la suivre. Et la lucidité de Olivier Rollin, vous le dites, d'Anna Karénine, dans sa marche à la mort, elle dit, tandis que mon amour, elle dit dans son monologue intérieur, tandis que mon amour devient de plus en plus égoïstement passionné, le sien s'éteint peu à peu, il n'y a pas de remède à cette situation. Il voit, elle dit, il a en face de lui une maîtresse passionnée dont l'ardeur lui répugne. Elle a tout compris. C'est par elle et à cause d'elle que Vronsky ne l'aime plus. C'est pas parce que il la trompe, c'est pas parce qu'il regarde d'autres femmes, c'est parce que son amour lui devient insupportable. Et là, il y a une réflexion extraordinaire. C'est-à-dire, quand l'amour est seul, dans une sorte d'acosmie, à un moment donné, elle dit, on devrait se cloîtrer en province ou ailleurs, etc. Quand l'amour est seul, il ne peut pas subsister. Il se nourrit du monde. Même si le monde le met en péril, il se nourrit du monde. Voilà, me semble-t-il, une des leçons à méditer d'Anna Karénine. Jean-Pierre Morel.
Oui, pour prolonger votre idée, justement, il y a un passage qui est extrêmement profond, une réflexion de Tolstoï sur les rapports vers la fin du livre entre Anna Karénine et Vronsky. C'est que Et implicitement, Tolstoï dit, comme vous, un amour ne peut pas se suffire à deux. C'est terrible d'être deux. Il faut un tiers. Il faut en passer par l'enfant, par un projet, par un animal. Mais il faut en passer par un tiers. Et malheureusement, dans les rapports, à la fin du livre, dans les rapports entre Anna et Vronsky, le tiers qui assure la relation entre les deux, c'est ce que Tolstoï appelle l'esprit de lutte. Il s'est installé un esprit de lutte, et c'est le commencement de la fin. Ils ne se départiront jamais de cet esprit de lutte. Anna contre Vronsky, et non plus Anna avec.
Mais ce qui est très beau quand même aussi, c'est que cet amour meurt alors qu'il s'aime. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, en général, l'amour meurt du fait de la lassitude, de l'usure, mais là, il y a autre chose. Il s'aime, et Vronsky l'aime profondément, et en même temps, cet amour est impossible, et rendu impossible par la jalousie d'Anna, par sa volonté, en effet, de tout sacrifier à l'amour et que son amant fasse de même.
Jean-Pierre Morel. Alors, il y a une question à laquelle je ne sais pas bien répondre. Souvenez-vous, à la fin du roman, pendant le long monologue d'Anna avant qu'elle ne se suicide, il y a une description de l'amour que Vronsky porte à Anna, description que fait Anna, et qu'apparemment justifie Tolstoï. un éclair de, est-ce que c'est un éclair de lucidité? Est-ce que Vronsky, au fond, n'a jamais aimé Anna que pour des raisons, de satisfaction personnelle, de narcissisme, de, mais ce que dit Anna sur l'amour que lui porte Vronsky est terrible, terrible. On comprend, dans le débat
elle
où elle
tort,
est,
elle
que,
a tort, oui.
Elle a tort ou elle a raison?
Non, dans, elle a tort.
Moi, je pense qu'elle a tort.
Elle, elle a tort.
Pourquoi elle a tort?
Oui, moi aussi. Ouais, alors, j'avais gardé justement de ma première lecture très ancienne d'Anna Karenine une image, alors je dirais une image un peu flaubertienne de Vronsky. Bon, une image un peu méprisante que c'est un gandin quoi. Bon, et pas du tout. Je veux dire, il l'aime passionnément jusqu'à là. Enfin, passionnément, il n'a pas cette espèce d'absolutisme de la passion qu'a Anna. Mais enfin, il l'aime profondément. Bon, et c'est vraiment elle qui détruit le feu
Oui.
De son amour à lui. Elle est ce qui la rend, enfin c'est l'inégalité de leurs conditions qui la rend folle. C'est-à-dire elle n'a pas d'autre issue. Elle n'a pas d'autre issue. Elle est, et donc elle le répète tout le temps. Elle est entre ses mains. Mais tandis que lui, il peut en effet s'en sortir. Il a sa position sociale n'est pas affectée, etc. Enfin bon voilà. Mais c'est cette inégalité de conditions qui fait qu'elle reproduit constamment ses soupçons, etc. Qui d'ailleurs, d'après ce que je crois, enfin mais peu importe d'ailleurs, enfin était un peu la position de la femme de
Tolstoï.
De Tolstoï, enfin de Sophie, qui dès le début, quand elle se marie avec lui, dit voilà, lui il est tout et moi je suis pas grand chose là-dedans, quoi. Bon, enfin bon, mais en tout cas, je crois que cette description qu'elle fait de paranoïaque, enfin de du non-amour que lui porterait Vronsky est totalement totalement délirant. Je voudrais dire juste une chose parce qu'on l'a, enfin c'est une chose formelle, mais que j'avais oublié là aussi, qui m'a frappé. C'est que dans ces cogitations là d'Anna, le dernier jour de sa vie, c'est l'invention du stream of consciousness là.
Ah bah oui.
Voilà, c'est extraordinaire. J'avais complètement oublié ça. Je veux dire, c'est exactement le monologue intérieur, c'est-à-dire des pensées délirantes et puis qui sont interrompues par tiens, il y a une enseigne, je sais quoi, etc. Ouais. Bon, ils envoient leur beignet à Moscou, etc. Puis elle revient sur. Enfin bon, et c'est la première
c'est
fois,
prodigieux.
C'est pas du tout le nommé du jardin là que tout le monde a oublié, qui a inventé ça, c'est Tolstoï.
C'est Tolstoï, et les gens rapprochent de Joyce.
Oui.
Moi, je pense aussi qu'un autre rapprochement s'impose, c'est Virginia Woolf, Mrs.
Oui,
Dalloway.
Oui,
on est vraiment... C'est le même procédé inventé par Tolstoï. Mais
c'est extraordinaire. Pardon. Enfin, comme il excelle à décrire les états de le chaos des pensées, quoi. Quelquefois, qui est un chaos heureux. Enfin, quand Anna est dans le train revenant de Moscou à Pétersbourg, et là, toutes ces sensations se mélangent. Je ne sais pas si la pelisse qui est accrochée à une patère dans le wagon, elle ne sait pas si c'est une pelisse ou si c'est un animal, etc. Ou quand Lévin va se marier, il est complètement. Enfin, ses pensées suivent des cours aberrants. Et Tolstoï décrit ça de façon comme on n'a jamais fait.
Alors, je voudrais revenir sur le personnage de Karénine. Parce que vous avez dit, Jean-Pierre Morel, qu'il est bouleversant. Et d'un autre côté, ce n'est pas seulement Anna qui est sévère avec lui en disant c'est une machine méchante, c'est un automate. C'est aussi souvent Tolstoï. Et pendant un long moment, nous considérons que ce cocu mérite son sort. Tolstoï écrit pour la première fois à un moment donné, son imagination lui présenta la vie de sa femme, les besoins de son esprit et de son cœur. Et l'idée qu'elle devait avoir une existence personnelle le frappa si vivement qu'il s'empressa de la chasser. C'était le gouffre qui n'osait sonder du regard, pénétré par la pensée et le sentiment dans l'âme d'autrui, lui semblait une fantaisie dangereuse. Il a un côté comme ça, Karenine, il faut bien le reconnaître. Et on peut dire d'ailleurs que le roman, c'est l'art du roman, c'est de nous contraindre à pénétrer dans l'âme d'autrui, pas simplement à lire en nous-mêmes. Mais le moment où moi j'ai basculé, où je me suis mis à aimer Karenine, aimer d'un amour compatissant, c'est le moment de l'aveu d'Anna Karenine. C'est-à-dire que Vronsky participe à une course de chevaux. Il a un faux mouvement, son cheval tombe, il est obligé de l'achever, froufrou, il se sent coupable, mais elle a pensé à un moment donné que lui-même a été blessé, voire pire. Et donc, Anna Karénine, bouleversée, dit tout. Et sous quelle forme ? J'ai été, je suis encore au désespoir, parce que il la voit changer de couleur, donc il lui pose des questions. J'ai beau vous écouter, c'est à lui que je pense, je l'aime, je suis sa maîtresse, je ne puis vous souffrir, je vous crains, je vous hais, faites de moi ce que vous voudrez. C'est un aveu d'une violence folle, qui dit aussi qu'Anna Karenine ne supporte pas la duplicité, mais on ne peut pas, à ce moment-là, ne pas éprouver une véritable tendresse pour l'homme qui reçoit cet aveu en pleine figure.
Absolument. Jean-Pierre Morel. Absolument. Je suis comme vous. C'est le moment où j'ai basculé. Et d'ailleurs, juste après, Anna Karenine, le lendemain, après une nuit passée, se rend compte de la violence de cet aveu et elle le regrette. Et vous parliez de ce moment. Je trouve que c'est un moment extraordinaire parce que les pensées, et ça aussi c'est un geste de romancier, les pensées sont aussi modelées par les lieux. Quand Karénine se met à la place d'Anna, il est dans le boudoir d'Anna. Il y a une circulation dans l'appartement, entre le salon... Le salon, la salle à manger, le salon, le boudoir et enfin la chambre, mais il reste sur le seuil, il n'y entre jamais. Et selon que Karénine est dans l'une ou l'autre de ses pièces, ses pensées changent, elles se modulent. Je trouve ça extraordinaire. Oui. Et c'est dans le boudoir où il s'assied dans le fauteuil où s'assied Anna qu'il commence à penser, et vous venez de le rappeler, mais qu'est-ce qu'elle pense, elle ? Il faut que je me mette à sa place.
Mais je voudrais dire, je pense que, enfin, en vérité, le portrait de Karénine est assez incohérent, mais c'est ça qui le rend grand, parce que Tolstoï lui-même ne sait pas très bien quoi penser de Karénine. Certaines fois, il est évident qu'il a de la compassion pour lui et même de l'affection pour lui, et puis d'autres fois, et notamment que ce passage que vous avez lu, qui moi aussi m'a surpris, où tout d'un coup il se dit quoi, elle aurait une vie propre, je m'en suis jamais aperçu. Bon, et ce passage-là est complètement contradictoire tout de même avec d'autres choses qu'on sait de Karénine. Donc il n'est pas décrit, enfin, d'un seul tenant, quoi. Tolstoï hésite devant lui, comme il hésite aussi devant Anna, comme il est certaines fois séduit et d'autres fois. Donc il dit, enfin, il y a des phrases terribles quand il dit c'est une femme perdue, ça lui fait horreur comme une araignée. Bon, enfin bref. Donc ce qui rend ce roman grand, c'est que justement presque chacun des personnages, oui, est d'un côté, enfin, est vu de plusieurs façons, de façon contradictoire et de façon qu'on ne peut pas arrêter. Vronsky lui-même, en effet, voilà, il est amoureux, mais il est un peu faible, etc. Il n'y a aucun personnage qui soit tout d'une coulée dans ce livre.
Oui, et l'esprit du roman quand même l'emporte toujours sur la prédication, sur la doctrine. Et l'esprit du roman, c'est aussi un certain, et d'ailleurs vous l'avez dit à votre manière, l'un et l'autre, une certaine manière de, si j'ose dire, de protéger la contingence. Et c'est, voilà, les choses qui arrivent. La philosophie cherche le nécessaire. C'est vraiment, c'est Spinoza qui le dit très clairement. Et il y a un passage tout à fait... comment dire, adventice dans le roman, mais très révélateur. Varinka, une amie de...
Ça, c'est formidable.
Voilà. Bah, allez-y.
Oui. Non, c'est formidable. Le demi-frère de Lévin, dont j'ai oublié le nom. Bon,
Serge Ivanovitch.
Il est amoureux de cette jeune fille qui s'appelle Varinka, etc. Ils se promènent ensemble dans la forêt. Il veut lui faire sa déclaration. En parenthèse, faire une déclaration, apparemment, autrefois, c'était une chose extraordinairement compliquée, parce qu'il y a beaucoup de déclarations très difficiles dans différents romans, dans Guerre et Paix aussi, etc. Enfin, bref. En tout cas, il veut lui faire sa déclaration. Il se balade donc dans la forêt. Il cherche des champignons. Il pense qu'à ça. Elle-même ne pense qu'à ça. Elle sait qu'il va lui faire. Et puis, la phrase qui lui échappe, ça n'est pas « je voudrais votre main »,« je vous aime, je voudrais votre main », non, c'est « qu'est-ce que c'est que... »«
Quelle différence y a-t-il entre un bolet et un bolet ?»
Voilà, et donc elle est un peu interloquée, elle lui répond, et puis lui, il a encore une possibilité de se rattraper, mais non, et Il continue, il insiste sur le pied du champignon, etc. Et à ce moment-là, c'est fini. C'est trop tard. Donc, les mots ne sont pas venus et ils ne viendront plus jamais. C'est-à-dire qu'en fait, toute une vie et deux vies prennent un tour définitif à cause de ce minuscule hasard de langue.
Bon. Ah, c'est un hasard de langue. Oui.
C'est formidable.
Tous deux sentirent que c'en était fait. Voilà. Ce qui devait les unir, les mots qui devaient les unir ne seraient pas prononcés. Et c'est tout à fait extraordinaire parce que...
Fernandez dit aussi assez justement, c'est très tchékovien. Tchékov va faire une nouvelle sur
cette scène clé que Kundera admirait tellement, il l'a reproduite dans L'Art du roman. Je veux dire, l'une des phases du génie de Tolstoï, c'est ce que j'appelle le va-et-vient intérieur. Une espèce de loi du psychisme, vous voulez prendre une décision, vous vous y préparez, et au dernier moment, soit vous ne la prenez pas, soit vous prenez la décision contraire.
Voilà.
On dirait, pour employer une métaphore, qu'il y a là, dans cette scène, en physique, ça s'appelle une barrière de potentiel, vous envoyez une boule qui grimpe une pente, il se trouve qu'arrivée en haut, elle a consommé toute son énergie et elle va basculer, mais de quel côté ?
De l'autre côté
pour trouver du nouveau, et là, elle ne bascule pas, elle retombe, et il ne se passera rien.
C'est
un épouvantable gâchis, comme vous disiez.
Oui, c'est un gâchis, et c'est vraiment le roman qui peut nous faire accéder à tout ça, parce que c'est une raison différente de la raison des philosophes. Bien, écoutez, je vous remercie tous les deux, et je voudrais... dire ma reconnaissance particulière à Olivier Rollin, parce qu'il a une actu, comme on dit, et il est venu son livre, Vider les lieux, qui sort chez Gallimard, et je dis que c'est un très beau livre, une histoire de déménagement, ironique et émouvante, et il n'est pas venu défendre ce livre, mais de manière très désintéressée, parler avec vous, Jean-Pierre Morel, d'Anna Karénine. J'ai lu Anna Karénine dans la collection Folio, avec la très belle traduction d'Henri Mongeau. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Corinne Amard, à la réalisation François Connac, à la technique aujourd'hui, Hervé Dubreuil. Et tout de suite, Concordance des temps, de Jean-Noël Jeannonet.